Les moments musicaux de l'Académie Clémentine. Une émission qui nous donne l'occasion de réécouter des concerts qui ont lieu en l'église Saint-Georges de Cannes. Aujourd'hui, nous sommes là pour évoquer le concert du 5 octobre qui réunissait les solistes de Cannes et nous sommes très honorés d'accueillir quasiment la formation au complet. Bertil Dufour, premier violon.
Bonjour.
Philippe Cochevert, violoncelle.
Bonjour.
Et Marika Hofmeyer qui était au piano.
Bonjour.
Alors, bienvenue à tous. Pour mémoire, il y avait ce concert deux pièces de Mozart, deux quatuors de Mozart et de Brahms. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur le quatuor de Mozart. Ça va être l'occasion de se présenter les uns les autres, de faire connaissance avec chacun d'entre vous, de savoir comment cette formation, les solistes de Cannes, s'est créée, et de parler aussi de votre vie à chacun et de vos instruments. Alors, on commence par peut-être Philippe.
Oui.
On va oublier la courtoisie. On va commencer. Philippe, parce que c'est vous qui êtes un peu l'initiateur de cet ensemble.
Mais disons que je le suis avec Bertilde. Hein. Au début, nous souhaitions faire de la musique de chambre avec un autre soliste qui s'appelait Jean-Marc Covin. Donc, c'était le trio à cordes. Jean-Marc est parti vers d'autres lieux. Donc, c'est Esther Biro qui l'a remplacé comme alto solo à l'Orchestre de Cannes. Et cette formation perdure depuis une petite vingtaine d'années, je crois. Alors, elle regroupe, en gros, les solistes de l'orchestre avec à sa base violon, alto, violoncelle.
On parle de l'orchestre régional.
L'orchestre régional de Cannes, oui.
D'accord.
Et Marika, au piano, nous accompagne depuis déjà plusieurs années. Alors, nous donnons des concerts ou en trio, ou en quatuor avec piano, ou en quintette, ou en 12 cordes. Enfin, donc, c'est une formation à géométrie variable, mais qui est partie du trio à cordes.
Très bien. Et donc, vous donnez de nombreux concerts par an, en dehors de l'orchestre, bien sûr.
Bien sûr. Alors, on donne pas mal de concerts. Il est évident que la première chose, c'est l'Orchestre de Cannes, avec lequel on donne une centaine de concerts, en gros, par an, ce qui est déjà pas mal. Et la musique de chambre, eh bien, on l'a mis au milieu. Alors, des fois, on va faire 5 concerts dans l'année, des fois, on va en faire 12. C'est un petit peu, ça dépend des saisons.
Alors, c'est un peu. Donc, on disait une centaine de concerts, plus des concerts annexes.
C'est pas mal.
C'est beaucoup de présence avec l'instrument.
C'est pas mal.
Beaucoup de travaux de répétition.
Ah oui, ben ça, l'instrument, il fait partie de notre vie. Hein. C'est tous les jours. Hein. C'est comme la famille, quoi. L'instrument, c'est une personne.
Oui, je me souviens d'avoir entendu un jour une interview de Maurice Gendron par Jacques Chancel.
Oui.
Et bon, la plaisanterie est venue, c'est « Quel est votre violon dingue ?» Et Maurice Gendron avait dit « Bah oui, mais mon violon dingue, évidemment, c'est lui en désignant son instrument, parce qu'avec le nombre d'heures passées en sa compagnie. »
Oui, mais il y a une communion avec son instrument. Bon, même si on ne le touche pas une journée, où est-ce qu'il est? Il est là. Bon, on a l'inquiétude, on l'a laissé là, il est seul. Bon, je sais pas, il y a vraiment, ça fait partie de la famille.
Oui, alors c'est facile pour vous, parce que violoncelle, ça se transporte. Encore plus facile pour Bertil avec
son violon. Je crois quand même.
Mais alors, Marika, comment vous faites pour transporter votre piano avec vous et l'emmener sur le palier?
Alors, c'est toujours très compliqué, parce qu'évidemment, je ne peux pas amener mon piano. J'ai un très, très, très bon piano à la maison, qui est vraiment mon ami, avec qui je passe donc tous les jours. Et ben, des fois, au concert, je retrouve un ami. Pas le mien, mais je trouve un ami. Et autrefois, c'est beaucoup plus compliqué. Ce sont des pianos qui sont moins bien, qui ne sonnent pas bien. Ça dépend de l'acoustique. Donc, c'est effectivement plus difficile que pour quelqu'un qui a toujours son instrument. Et ça fait quand même une grande différence. C'est vraiment bien de se sentir bien sur l'instrument, quand ça sonne, quand on est bien, quand il y a quelque chose, quand il y a une connexion.
Alors chacun aura compris en écoutant Marika qu'elle a un accent, un petit charme étranger. Donc vous venez d'Afrique du Sud?
Oui, je suis de Cape Town en Afrique du Sud et je suis arrivée en France en 89.
Et d'origine autrichienne en plus?
Non, d'origine allemande, hollandaise.
Ah bon? Ben voilà, alors, et vous n'êtes pas venu à pied, Bertil présentait tout à l'heure, c'est...
Presque. J'ai fait mes études à Salzbourg, en Autriche, en premier. Et puis après, je voulais vivre en Europe et j'ai rencontré mon mari en Afrique du Sud qui était français. Donc, j'ai appris le français.
Voilà, et vous voilà à Cannes. Berthilde, alors, c'est un plaisir de vous voir à chaque concert de l'Orchestre de Cannes parce qu'il y a des instrumentistes qui sont assez passifs devant leur musique. Je pense à même certains solistes qui viennent, on a l'impression qu'ils jouent. Bon, il faut faire abstraction de leur présence pour écouter la musique presque. Mmh. Et d'autres qui font vivre la musique, on a l'impression qu'ils les vivent en eux et c'est l'impression que vous donnez. On sent la passion de l'instrument.
Ben oui, je ne me suis jamais posé les questions. Je crois que c'est venu naturellement et peut-être c'est mon professeur qui l'a beaucoup développé parce que j'étais plutôt un peu timide et qui m'a un petit peu... Ah, Marie...
timide, Berthilde.
Mais oui, quand j'étais petite et qui m'a appris à extérioriser mes sentiments sur l'instrument.
C'était un professeur de violon.
Un professeur de violon, bien sûr. Voilà.
Je ne sais pas si vous aviez vu un film qui s'appelait De Mao à Mozart, avec, c'était l'histoire de la tournée d'Isaac Stern,
en Chine.
Où justement il l'indiquait aux élèves qu'il rencontrait, qui étaient virtuoses, qui étaient capables d'aligner des notes avec beaucoup de
facilité,
d'agilité, etc. Il leur disait, mais maintenant chantez-le, vivez-le, et ça se transformait tout de suite la musique, c'était... Ouais.
C'est développer le côté musical des phrases. Oui, ça c'est clair.
C'était... Alors on va peut-être, puisqu'on parle d'un concert, on va peut-être évoquer un peu de musique. Alors on va commencer par Brahms. Quelqu'un veut dire un mot sur... D'abord, excusez-moi, on va commencer par Mozart. Donc quelqu'un veut-il, je crois Philippe Cochefer, sur Mozart, précurseur en matière de...
Absolument. C'est le premier à avoir écrit pour le quatuor avec piano. Parce qu'il a voulu faire en fait une synthèse du quatuor à cordes et du concerto. Alors il a fait la fusion pour que tout le monde soit concerné et Mozart adorait en musique de chambre le chiffre 4. Il estimait que c'était vraiment la musique de chambre. Voilà. Alors il a commencé à composer ce quatuor en même temps que les Noces de Figaro du reste. Et c'est un véritable chef-d'œuvre, le sol mineur, c'est un des sommets de la musique de chambre. Et c'était son premier quatuor avec piano, encore le génie de l'homme quoi. Et nous étions tellement heureux de faire ce concert pour l'Académie Clémentine avec Mozart en sol mineur et Brahms en sol mineur, parce que à jouer c'est génial et à entendre aussi. Alors donc tout le monde était content, tout le monde s'y retrouvait.
Très très bien. Il avait quel âge donc quand il a composé les Noces de Figaro?
Doit être 25-30 ans, quelque chose comme ça, je crois, à peu près. Oui, à peu près. Il s'était bien essayé au quatuor à cordes. Et donc, il avait choisi cette ouverture, qui a été après reprise par Schumann et Brahms, du reste, hein, qui se sont inspirés de Mozart.
Très bien, donc nous écoutons le premier mouvement. Thank you.
et je pleure.
Bien, bravo. À vous réécouter alors, ça, Philippe.
Mais ça sonne bien, je trouve que la prise de son est superbe. Bon, après, moi, je vois pas la globalité. Hein. On voit les choses...
Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à être objectif du tout.
Voilà, voilà. Non, mais c'est une belle prise de son. Je félicite le preneur de son.
Oui, oui,
voilà, ça sonne bien. C'est... Non, non.
Enfin, nous qui ne sommes pas spécialistes de la musique, mais simplement des amateurs, des mélomanes, on a pris beaucoup de plaisir à ce concert. D'autant plus qu'il y avait une bonne atmosphère.
Ah oui.
C'était le soir de l'inauguration du plan Lumière de la ville de Cannes, qui avait bien voulu faire avec nous cette manifestation conjointe, et il y a l'église Saint-Georges était pleine,
il y avait une ambiance, il y avait une réelle ambiance, et je trouve l'équilibre des quatre, c'est jamais évident avec le piano, hein, violon, alto, violoncelle et piano, où le piano est trop fort, où il n'est pas assez, enfin, là ça me paraît vraiment très bien.
Surtout dans des églises où quelquefois l'acoustique n'est pas ce qu'il y a de mieux, et là on a été très agréablement surpris, parce que l'église Saint-Georges, pour niveau acoustique, est exceptionnel.
Magnifique.
Le cadre est magnifique. Enfin, j'ai l'impression que tout était réuni ce soir-là pour ce concert.
Eh bien, nous avons eu d'autres concerts à envisager.
Ah ben, avec plaisir.
Alors, la musique, en écoutant ce premier mouvement, on évoquait le côté international de la musique, qui est un langage qui va au-delà de l'Afrique du Sud, de la Russie, de la Chine.
Oui, ce que j'ai dit, c'est que par rapport à ce que Bertilde a dit tout à l'heure, que c'est un moyen d'expression, je pense que même dans un niveau qu'on n'est peut-être pas professionnel, je vois parmi mes élèves, c'est souvent pour eux aussi leur seul moyen de s'exprimer, de dire quelque chose qu'ils ne peuvent pas dire avec les paroles. Moi, je vois que quand je suis arrivée en France, je ne savais pas parler le français. Eh bien, je pouvais communiquer parce que j'ai mon piano. Et c'est une langue qu'on comprend, c'est une langue qu'on espère vraiment que tout le monde pouvait se comprendre comme ça.
Et la musique est aussi une communication, puisque on dit souvent que le cinéma et l'art international, parce qu'on ressent les émotions d'un Chinois, mais c'est pareil pour
la
musique.
C'est un langage universel. Demain, on peut jouer avec des Japonais, avec des Chinois, Mozart, Brahms.
Je me souviens de quelques directions d'orchestre par des Chinois qui étaient venus, il y avait notamment d'un Beethoven qui avait été...
Tout à fait.
Oui, c'est vrai.
qui avait été absolument magnifique. Mais il y a quand même des musiques étrangères qui sont différentes des nôtres, à l'oreille, etc. Quel est le positionnement de la musique occidentale, musique dans le monde ?
Hélas, nous, notre éducation en France et en Europe est assez sectaire. Elle reste un peu fermée. Maintenant, ça s'élargit. On commence à aller vers l'Inde, vers la Chine, tout ça. Les compositeurs s'inspirent de thèmes de là-bas. Mais ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. La culture musicale était en Europe. Voilà.
Ce qui était étonnant, il y a à peu près 3 semaines, on a fait un concert avec Maratka, et qui a fait une recherche justement sur toutes les musiques.
Alors, qui est Maratka pour...
Alors, ce compositeur, il est
tchèque,
contemporain, donc, qui a écrit tout jeune.
Oui, il a une quarantaine d'années.
À peine. Et donc, il a fait une grosse recherche sur toutes les musiques du monde, et il a écrit, c'était Luminarium. Et c'était extraordinaire de voir la richesse de toutes les musiques, les différences, mais la richesse qu'il y a dans toutes les musiques traditionnelles de tous les pays. L'homme a un développement, une imagination musicale extraordinaire. Et c'est vrai que nous, au niveau de musique occidentale, la musique qu'on appelle classique...
Ou sérieuse.
Est très riche. Mais y a énormément, et je trouve que c'est bien à notre époque d'avoir cette ouverture sur tout ce monde comme ça. On a une chance extraordinaire.
Marika. L'Afrique du Sud, c'est pareil, parce que maintenant que la part est définie, il y a beaucoup de compositeurs qui écrivent des œuvres avec des influences africaines et européennes. Donc il y a souvent des compositeurs qui ont fait leurs études en Europe, mais qui sont sud-africains. et qui utilisent dans leur composition un style européen, mais avec des rythmes africains, tout mélangé. Mmh. Et c'est l'histoire, quoi. C'est l'histoire qui se crée.
Et justement, dans cette pièce de Marinka, pour compléter Berthilde, en fait, il a pris des thèmes qui ne sont pas écrits. C'est sur des bandes, il a enregistré des musiques traditionnelles où il a, dans les bibliothèques, il a retrouvé des, dans les médiathèques, il a pris ces thèmes, il les a transcrits pour nous, pour les musiciens classiques, quoi, des classiques.
D'accord. Et à votre avis, les interprétations de notre musique par des étrangers, c'est-à-dire par des Brésiliens, des Chinois, ils s'intègrent dans notre...
Ça a bien évolué. C'est vrai qu'au départ,
où il y a des... en tant que technicien, vous trouvez
ça a vraiment évolué, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être 10-15 ans, on disait, la musique française jouée par un tel, ou même par les Allemands, c'est pas terrible. Bon, et puis en fin de compte, maintenant, les plus grands orchestres jouent la musique française fabuleuse, les orchestres français peuvent jouer les Brahms et tout magnifiquement aussi. C'est vrai qu'il y a des spécificités dans les orchestres et dans les pays, les cuivres, les cordes.
Voilà,
les...
on garde des identités de son.
Voilà, avec des identités.
De sonorité, je pense.
Mais c'est-à-dire, essayer d'expliquer une identité de sonorité.
Je crois qu'on a une recherche dans ce qu'on a envie d'entendre. Le son, un son n'est jamais le même. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce qui est intéressant, pourquoi la même œuvre est jouée par plusieurs violonistes et qu'on est content d'aller voir, c'est qu'on n'a pas la même chose. Ce sont pourtant les mêmes notes. Mais ce n'est pas la même interprétation et il n'y a pas la même recherche du son. Il y en a qui cherchent quelque chose de brillant, des fois les gens qui cherchent un côté plus sombre, qui cherchent plus profond. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est la diversité des interprétations. Et je pense que justement dans l'éducation en fonction des pays, on a une petite une éducation ou une recherche de son qui est différente. Et je pense qu'on a quand même gardé cette idée de son français un peu plus clair. On dit que les Allemands sont quelquefois un peu plus lourds, plus sombres. Et je pense que c'était... Mais c'est important, parce que sinon, ça serait pas drôle si tout le monde faisait la même chose.
Ça donnerait peu de sujets pour notre ami Frédéric Lodéon pour comparer ses interprétations le dimanche après-midi.
et je vois par exemple par rapport à la Chine et au Japon, qui à la base c'est le même peuple, qui après s'est scindé, mais il y a une différence de culture d'exécution incroyable. Les Chinois, on va dire qu'ils sont, entre guillemets, j'entends, parce qu'ils vont être plus latins, ils sont plus sensibles. Le Japonais reste plus froid, il est plus... et les interprétations, c'est magnifique, c'est des magnifiques instrumentistes, mais il y a une différence.
Ça se sent.
Oui, ça se sent.
Ils sont plus rigides. Ils ont aussi une éducation très sévère.
Voilà, ça va avec
sociale,
leur éducation. Absolument.
Voilà, et donc on parlait tout à l'heure du rythme de certains instrumentistes un peu rigides, mais la musique c'est du rythme. Il y a toujours, même si on ne le voit pas, on ne voit pas l'instrumentiste. Il y a quand même derrière une espèce de pulsion humaine qui peut-être se traduit nécessairement dans le langage corporel. Et est-ce que, en fermant les yeux, on a le même rythme avec quelqu'un de très rigide et quelqu'un de très expansif ?
Eh bien, je pense que on doit quand même pouvoir entendre, ça c'est la première chose. Donc, il ne faut pas que l'interprétation soit dans le corps. Je pense que c'est vraiment le son qui doit parler, la phrase qui doit parler. Par exemple, quand on écoute un disque, on ne voit pas la personne. Donc, mais c'est vrai que le corps... Après, on rentre dans le technique, mais c'est vrai que le corps peut aussi être... Pour techniquement arriver à faire quelque chose, c'est très important comment utiliser le corps. Et des fois, ça peut être un handicap quand on bouge trop ou quand on... il faut quand même que ça va avec la technique. Et enfin, moi, j'ai une grande expérience parce que je trouve que les Africains, chez nous, ont ce rythme inné. Donc, les tout petits sont déjà en train de danser dans la rue. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais avoir. Les plus simples rythmes aux percussions, j'ai essayé de faire, c'était absolument impossible. Et j'ai récemment eu un petit élève africain qui, tout à fait au début, faisait le rythme naturellement avec le corps, avec tout ce que nous, on doit prendre des années pour apprendre.
Oui, c'est amusant. J'avais un ami musicien de jazz, il jouait avec Claude Luther et il jouait du trombone. Et devant des enregistrements, il me disait, mais là, on sent bien que l'enregistrement a été fait à froid, là. apparemment.
C'est vrai, non, mais c'est vrai.
Et là, par contre, là, sur tel disque, là, les gars, ils étaient prêts, ça chauffait, c'était bon. Ben, je veux dire, il y a quand même une atmosphère qui se transmet dans le.
Et c'est vrai que dans le jazz, le rythme encore peut-être encore plus important que.
Non, et puis il y a l'ambiance du moment. Je vois des fois avec l'orchestre régional, là, on donne 4 concerts identiques. On fait 4 villes, 4 concerts. Donc, et il va y avoir 3 concerts, il y a une ambiance terrible. Il y a le même nombre de personnes au suivant, au quatrième, hein, et puis il n'y a pas d'ambiance. Ce soir-là, il n'y a pas d'ambiance. Bon, c'est la même chose, les mêmes interprètes, les mêmes solistes. Et...
Est-ce que le public y est pour quelque chose?
Moi, je pense aussi. On sent un public réceptif. Ça, c'est clair.
Très bien, ben, écoutez, on va revenir à notre public donc, du 5 octobre avec le deuxième mouvement de ce quatuor de Mozart. Très bien, nous venons d'écouter le deuxième mouvement du Quatuor pour piano et cordes de Mozart. Je vous rappelle que vous êtes sur RCF, l'émission Les moments musicaux de l'Académie Clémentine, que nous évoquons le concert qui a été donné par les solistes de Cannes le 5 octobre dernier, et que nous sommes en compagnie de Berthilde Dufour, premier violon, de Philippe Cochefer, premier violoncelle, et Marika Hofmeyer, piano. Alors il nous manque quelqu'un, il nous manque Esther Biro, qui est hongroise, qui est l'alto depuis toujours des solistes.
Presque l'origine, puisque c'était Jean-Marc Covin qui est à l'origine et qui est parti vers d'autres lieux. Et Esther l'a brillamment remplacée. Alors Esther est de tout cœur avec nous ce matin, mais elle est hongroise, comme vous avez dit. Elle n'aime pas parler comme ça, avec un micro, en français, tout ça. Elle parle très bien français, mais... Bon,
avec un accent un petit peu.
Elle a un accent. Ah, elle a un accent. Elle a un solide accent, ça, c'est sûr, c'est sûr. Et alors là, parler, ça. Donc, elle écoutera l'émission parce qu'elle est assidue de la radio, exactement.
Voilà. Voilà. Et donc, l'alto, c'est un instrument qui fait le lien entre
très
les deux vôtres.
Très important. C'est souvent péjoratif. Il y a beaucoup d'histoires d'altistes et tout ça pour se moquer d'eux. Mais en fait, c'est un instrument magnifique, chaleureux qui est absolument important.
Qui est primordial.
Oui. Ben oui, il fait le lien. Il fait le lien exactement entre le violon et le violoncelle, entre les deux violons et le violoncelle. Sans alto, quelle tristesse.
Très bien. Et alors, justement, revenons à l'instrument. L'instrument, c'est... Marika parlait tout à l'heure de son ami, le piano. Je me souviens d'une autre interview d'un musicien qui disait que l'important, c'était pas la musique, c'était son instrument. Enfin, qu'importe ce qu'il ait à jouer, qu'importe s'il jouait du Brahms, du Mozart. L'important, c'était le plaisir physique, la matière du son de son instrument, le contact avec son instrument. C'est le cas pour...
Ben oui, parce que en fait, le chanteur, il a son organe, bon, c'est son corps, l'acteur de théâtre, de cinéma, voilà. Nous, on a besoin d'un outil, c'est notre instrument.
Et il y a une espèce d'osmose qui se fait avec le...
Ah oui, complètement. Moi, je vois, j'ai la chance d'avoir quand même un bel instrument, et ça fait maintenant 25 ans que je l'ai. Et plusieurs fois, j'ai un deuxième instrument quand nous faisons des concerts en plein air, mais je le sors jamais finalement. Je ne me sépare jamais de mon violon et de mon archet. Parce qu'on parle toujours énormément des violons, mais les archets sont aussi très importants pour le son. Parce que sur le même violon, on peut jouer avec différents archets, on a l'impression d'avoir changé de violon.
Ouais.
On n'a pas l'impression qu'une petite baguette comme ça puisse avoir autant d'importance.
Je dis que c'est 50%, 50-50, c'est essentiel l'archet.
Et alors ça tient à la qualité du bois, à sa rigidité, parce que le crin est le même...
Ah oui, absolument, ça c'est quelque chose qui se change quand c'est usé, ça n'a aucune
valeur.
D'ailleurs,
on voit souvent retirer des morceaux de crin.
C'est très particulier l'archet, parce que c'est un outil qui va convenir à l'un, pas à l'autre. Voilà, parce qu'un musicien va préférer une baguette souple, d'autres un peu plus rigide. Il y a des archets fantastiques, mais il y a des musiciens qui vont pas être bien dessus.
Je crois que c'est encore plus personnel qu'un instrument, l'archet.
Oui, oui. Ça, l'archet, c'est vraiment... C'est deux choses. Hein. Il faut les deux, quoi.
Alors, je rappelle que le premier violon, c'est le représentant de l'orchestre vis-à-vis du chef. On voit à chaque concert, le premier violon arriver, demander l'accord. Alors, parlez-nous un peu de cette mise à l'accord de l'orchestre. On pourrait penser que bon, chacun dans la coulisse s'est mis au point. Et...
Oui, oui, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que les instruments sont quand même, c'est quand même assez fragile malgré tout, et ça bouge assez rapidement. Donc on a besoin d'abord d'être bien sûr qu'on a tous, parce que nous sommes quand même 40 musiciens, c'est pas évident d'aller 40 musiciens aller prendre le hautbois. Donc on est tous à peu près au même accord, mais d'abord on vérifie. Et je pense que c'est important de faire une note sur scène avant le concert, de pas être complètement froid, quoi. Donc cet accord aussi a une importance par rapport au déroulement du concert au début.
Elle a raison, Bertine, oui. On sent une concentration qui arrive là. Paf, c'est le là, tout le monde...
D'accord, on se calme. Voilà. Il paraît que dans la musique indienne, on se plaint souvent de l'introduction des ragas qui est très longue. Mmh. Et un Indien me disait, non, on s'accorde.
C'est pour se mettre dans l'ambiance, exactement.
Oui, et donc moi, je fais quoi? Parce que le piano, je me prépare comment?
Mais vous donnez le la, non?
Quand tu es avec nous, tu donnes le la. Et c'est,
tu nous soutiens.
Mais c'est souvent ça qui est difficile aussi pour les pianistes, parce que dans les loges, vous avez toujours vos instruments, votre volontiers, vos violons, violoncelles, les flûtes, les clarinettes. Et moi, je tourne en rond.
Et ça l'énerve de nous voir, nous, on est en train de nous chauffer. Et
elle a une petite bouillotte dans les mains pour chauffer les mains, c'est tout ce qu'elle peut faire.
Mais sinon, je ne peux rien faire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi.
À se chauffer les mains.
Sans le piano, oui.
Et avoir, oui, une concentration sans l'instrument. Parce que nous, quelque part, de pouvoir jouer sur l'instrument avant...
Vous mettez dans le bain.
Vous voyez, puis ça rassure, on est déjà un petit peu dedans.
On se met dans le son, enfin, voilà. Non, ça c'est sûr.
Alors, quand il n'y a pas de piano, c'est le hautbois qui donne le la.
C'est le hautbois qui donne le la.
Parce que c'est le plus stable.
C'est une tradition. Je ne suis pas sûre, je pense que c'est celui qui s'entend le mieux.
C'est surtout
une
affaire de son.
Au niveau couleur,
oui,
et vibration.
Au niveau, voilà.
Très bien. Alors, parlons peut-être aussi de votre carrière de musique de chambre. Pourquoi la musique de chambre plus que l'orchestre, plutôt l'orchestre que la musique de chambre?
Il faut les deux. Et je dirais même les trois. C'est-à-dire l'orchestre, la musique de chambre et l'enseignement. C'est très, très complémentaire. Et je dois dire que j'ai des tas d'amis qui jouent magnifiquement, qui sont dans les orchestres parisiens et tout ça. Et quelquefois, ils nous envient, Bertil, Esther, moi, ils nous disent « Oui, on a un super orchestre et tout, mais on ne fait pas le quart de ce que vous faites. » Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Alors que nous, on peut dégager du temps pour la musique de chambre, avoir quelques heures de cours, ceux qui souhaitent, bien entendu. Et les cours m'apportent beaucoup. Pour jouer.
Vous donnez, Philippe, des cours au conservatoire
de musique de Cannes.
De musique de Cannes.
Voilà. Et mes élèves m'apportent beaucoup.
Moi, cours de violoncelle.
Absolument. Je suis professeur de violoncelle. Et il y a un réel échange. On pense toujours que le professeur apprend. Je tire beaucoup de choses de mes élèves.
C'est vrai.
Voilà. Et la musique de chambre, pas faire de musique de chambre, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose
c'est
gigantesque.
C'est des bouffées d'oxygène. Ah ouais.
Puis on est content de se retrouver.
C'est déjà un autre répertoire.
Oui, aussi.
Complètement. Et puis, oui, on n'a pas le même travail. D'abord, on travaille entre nous. À l'orchestre, on est quand même plus passif. On dépend d'un chef. C'est un petit
qui va donner ses idées.
Voilà. Donc là, on s'investit plus. Et puis... Pour moi, la musique de chambre, c'est vraiment un partage. Il y en a qui font de la musique de chambre qui peut-être ne s'entendent pas. Enfin, ce qui est très important, c'est d'avoir une idée. Oui, quand même. Ce qui est important, c'est d'avoir une même idée musicale. On a des échanges, mais d'être sur le même élan, c'est très, très important.
Puis chacun apporte des idées, et puis on choisit. Enfin, c'est une réelle...
Oui, on sent votre complicité. Enfin, je ne sais pas si ça s'entend dans...
Je ne vais pas vous dire le nombre d'années avec Bertil, parce que là, non, je
ne
sais pas. Mais ça fait un moment.
Oui, mais
ça fait pas mal.
Bon, il y a une unité, il y a une...
Oui, c'est clair.
À la fois dans la vie, puisque je
mais complètement.
Vous vois vivre un peu, et mais aussi bien sûr. Dans le...
Et puis,
dans la musique.
Bon, moi, je vois Bertil, je la connais tellement que j'anticipe, je sais comment elle va réagir. J'anticipe. C'est fabuleux, quoi.
Et alors, vous savez que les organisateurs de concerts, ils ont un problème avec les pianistes, parce que lorsqu'il faut amener un Erard dans l'église Saint-Georges, heureusement, nous avons l'aide du Conseil Général qui nous permet de faire face à cette dépense, mais c'est... Il n'y a pas de substitut. C'est une grande musique, grand piano...
C'est vraiment très important. Je pense que quand j'étais plus jeune, je pouvais jouer sur n'importe quel instrument. Mais maintenant que je sais ce qu'on peut faire sur un bon instrument, parce que j'ai un très bon instrument à la maison, ça fait quand même une très grande différence. Donc, j'aimerais bien être dans la place comme ils sont certains pianistes, de pouvoir choisir entre 4 ou 5 Steinway pour la soirée. Moi, je suis déjà contente d'avoir Steinway.
Et c'est souvent un sujet de non-concert, hein, le piano, hein, parce qu'on a des tas de propositions et les organisateurs nous disent, écoutez, il n'y a pas de problème, on vous prend, mais sans piano. Alors ça, c'est terrible pour nous.
Très bien. Eh bien, écoutez, on va finir l'écoute de notre quatuor de Mozart.
Thank you.
Alors, je dois vous avouer quelque chose, c'est que avant l'émission, les musiciens m'ont dit on n'aime pas se réécouter, on n'aime pas se réentendre. Et notamment Maïka qui a dit non, moi je veux pas. Et là, elle a eu d'exclamation en disant oh, mais j'étais bonne ce soir-là.
J'étais en forme. Elle a dit.
Ça m'arrive pas souvent, hein, de dire que je suis en forme.
Non, mais c'était bien. C'était. On parlait tout à l'heure aussi de ce grand soliste qui réunit pour faire de la musique de chambre ensemble. Ça n'arrive pas. Enfin bon, ils sont brillants, mais il n'y a pas cette espèce d'ensemble qui se crée.
Oui, oui, parce que je crois que quelquefois, l'important dans la musique de chambre, faut aussi ce qui est très important, c'est bien sûr la qualité de chacun, mais savoir écouter l'autre. Et se connaître, et quand ils sont réunis, ils ont tellement l'habitude de jouer seuls qu'ils ont quelquefois du mal. Alors, tout est brillant, chacun fait magnifiquement les choses, mais on a l'impression qu'ils ne font pas toujours ensemble.
Alors, Philippe évoquait la solitude du soliste.
Et oui, parce que c'est des gens qui sont applaudis, qui sont acclamés, mais le soir, ils sont seuls dans leur chambre d'hôtel. Et beaucoup de grands solistes, c'est pesant, c'est vraiment très pesant pour eux. Et je reviens à la musique de chambre, là, parce que c'est vrai qu'il faut une osmose dans un quatuor à cordes, il faut une osmose, il faut une entente, mais ils vivent ensemble, ils vivent plus ensemble qu'en famille. Et il y a des quatuors, à l'inverse comme Amadeus, à la fin de leur vie, ils ne pouvaient même plus prendre l'avion ensemble. C'est-à-dire que c'était pratique pour les tournées, ils prenaient chacun un avion différent parce qu'ils ne pouvaient plus se voir.
À ce point-là.
Ils étaient tombés dans l'autre côté. Alors c'est terrible, hein. Ouais.
Tomber dans l'autre côté,
c'est-à-dire voilà.
Ça se ressentait pas dans la musique ?
Non. Non, non, parce que
ils avaient des professionnels.
D'abord, voilà. Et puis je pense que leur envie musicale restait la même. Après, c'est au niveau des caractères, c'est vrai que c'est comme des gens qui vivent trop, trop souvent ensemble. C'est difficile, quelquefois difficile à gérer avec le temps et les tensions.
C'est des vieux couples qui... Ben vous n'êtes pas là.
Non.
Ah non, on est jeunes.
Alors, est-ce qu'il y a des projets immédiats pour les solistes?
Oui, il y a pas mal de projets. Là. On va venir à Nice, tiens, justement, au mois de février. Là, on va faire un concert de quatuor à cordes et orgue avec Laurent Fiévé à la Basilique Notre-Dame. Et puis, je dis ceux dans la région, hein, parce qu'il y en a hors région, mais bon, je dis ceux dans la région. Ensuite, au mois de mars, on fait quelque chose d'intéressant. On fait l'intégrale des quintettes avec deux altos de Mozart à Saint-Paul-de-Vence, avec trois créations, trois compositeurs qui se sont inspirés des quintettes de Mozart. Alors, il y a Suzanne Giraud, il y a Jacques Leno et Esteban Benzekri, un Argentin. Ça, c'est les projets médias. On doit jouer au Canet. Enfin, on va jouer dans le Var aussi. Enfin, on a... Oui, et puis, ça. À Montauroux, dans le Var, exactement. On va jouer à Saint-Raphaël aussi. On a pas mal de concerts dans la région.
Ben c'est très bien. Alors, on va arriver au terme de cette émission.
Merci.
Je voulais rappeler que nous avons évoqué un concert qui se donnait en l'église Saint-Georges en octobre avec les solistes de Cannes, Berthilde Dufour, Marie Kaufmeyer et Philippe Cochevert, que nous aurons une prochaine émission pour
et
écouter...
Et puis Esther Biro.
Mais... présent ici au
exactement, j'ai bien convié, j'ai bien compris.
Et donc, nous aurons une prochaine émission pour évoquer le deuxième quatuor qui a été donné ce soir-là, qui était le quatuor de Brahms.
Un monument de la musique de chambre aussi.
Un monument de la musique de chambre. Et là, alors, on va conclure cette soirée en proposant une version sans piano.
Oui, quand même, hein, parce que...
Les solistes de Cannes se sont adjoints à un flûtiste qui était...
Alain Daboncourt,
pour un quatuor pour flûte de Mozart, puisque nous sommes avec Mozart aujourd'hui.
Le rondo du quatuor avec flûte en La majeure.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous d'être déplacés. Et merci encore pour ce magnifique concert.
Merci de nous avoir reçus.
Merci beaucoup.
Thank you.